session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 8 septembre 1995, deuxième conférence.
Puisqu'il n'y a pas de questions, c'est normal. Je continue. Thomas d'Aquin, qui est notre maître. Dites-vous bien ça. Puisque l'Église nous le donne et que le Saint-Père tient beaucoup à cela. Au début de la communauté Saint-Jean, j'ai posé la question à Rome. Faut-il avoir une liturgie en français ou en latin? Parce que je voulais que ce soit l'Église qui détermine. Et le cardinal Mayer, qui est un bénédictin allemand, très racé, merveilleux, un grand ami de la communauté. Voilà et le père de la congrégation religieuse m'a dit, le Saint-Père vous demande d'être fidèle au plan doctrinal et de mettre tout l'accent dans cette recherche de la vérité. Sera déjà assez difficile, recherchant la vérité, de ne pas vous mettre derrière le dos un placard intégré. Une liturgie en latin, vous voyez bien. Donc, en français, qu'est-ce qu'il va pas? Ah, mais non.
Les clés dans la poche.
Ah, tout de suite, dès que vous entendez les clés, mais elles ne sont pas dans la poche. Oui, c'est la technique des rigueurs. C'est les voies déterminées de l'art. Alors, s'il y a quelque chose qui va pas, chut. Prenez donc la langue vulgaire. Ce qui fait que quand on est aux États-Unis, on prend la langue anglaise. Quand on est à Monterrey, on prend la langue espagnole. Quand on est à Taïwan, on prend la langue des mandarins. Et ainsi de suite, le portugais au Brésil. Mais on garde la même doctrine. Il n'y a pas un Thomas d'Aquin mandarin. Il n'y a pas un Thomas d'Aquin portugais. Il n'y a pas un Thomas d'Aquin français. C'est-à-dire cartésien. Non. Alors, vous comprenez que notre maître, c'est Thomas d'Aquin. Si, par hasard, en philosophie, je dis quelque chose qui vous semble être contraire à Thomas d'Aquin, vous aurez la gentillesse de me dire, père, je comprends pas ça, c'est contraire à Thomas d'Aquin. Et je vous expliquerai que ce n'est pas contraire à Thomas d'Aquin. Que Thomas d'Aquin est un théologien et que nous faisons de la philosophie. Et que Thomas d'Aquin, expressément, trois sagesses dès le début de sa somme théologique. Donc, ceux qui prétendent qu'il n'y a qu'une seule sagesse sont contre Thomas d'Aquin. C'est important de se rappeler ça. Et nous avons Thomas d'Aquin comme maître, pas parce que je suis dominicain, c'est parce que l'Église nous le demande. Mais un Thomas d'Aquin vivant, vous comprenez, il ne s'agit pas de répéter Thomas d'Aquin. Je me souviens, c'était chez les dominicains au Solchoir. Il y avait un bon professeur de théologie morale. Et on discutait sur la question de la morale de Freud. Il était là, il écoutait. Puis tout d'un coup, je me suis retourné vers lui, je dis, mais qu'est-ce que vous diriez, vous ? Alors il m'a dit, Thomas d'Aquin n'a pas rencontré Freud, il n'a rien dit sur Freud, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il était un excellent connaisseur de Saint Thomas, mais pas vraiment un ami. Thomas d'Aquin nous demande de faire une théologie qui soit la théologie de l'Église d'aujourd'hui. C'est évident. Thomas d'Aquin nous forme à faire des gammes merveilleuses. Il nous donne une souplesse dans les doigts, oh là là, merveilleuse. Et il nous permet de faire des gammes merveilleuses. Mais on ne fait pas un concert en faisant des gammes. Non. On fait ça pour pouvoir jouer, pour pouvoir exprimer quelque chose, à la fois d'ancien et de nouveau. Vous savez bien ce que Thomas d'Aquin dit à propos du gouvernement divin. Et le gouvernement divin est premièrement du côté de la doctrine. Puisque Dieu, Jésus a dit qu'il priait pour que Pierre ne défaille pas. Et le gouvernement divin a deux effets pour Thomas d'Aquin. Conservare, renovare. Il faut écrire ça en grand, hein, et répétez-le souvent. Voyez, Thomas d'Aquin n'est pas un conservateur. Thomas d'Aquin n'est pas un révolutionnaire. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il cherche la vérité. Il cherchait la vérité selon le mode humain en vue de la vision béatifique divine. C'est ça la difficulté. La théologie est à la fois humaine et divine. C'est le mystère de l'incarnation. Le Verbe fait chair. La parole divine qui assume tout le développement de notre intelligence. Vous voyez, toute fausse théologie implique une fausse vision de l'incarnation. Hegel implique une fausse conception de l'incarnation, du Verbe devenu chair. Parce que c'est où le Verbe qui devient homme, où c'est le Verbe qui détruit l'homme. Alors ce qui est merveilleux dans le mystère de l'incarnation, c'est que le Verbe ne change pas et il transforme l'homme. C'est l'homme qui est changé. Et alors, il faut comprendre que le propre de la théologie, de la doctrine sacra, d'impliquer le conservare, c'est d'impliquer le rénovare. Nous sommes au XXe siècle. Thomas d'Aquin, XIIIe. Je ne vais pas faire du néo-gothique. C'était un des articles du père du cardinal. Non, il n'est plus cardinal, puisqu'il est au ciel. Balthazar. Je crois que le premier article que j'ai lu de Balthazar, qui était jésuite à ce moment-là, qui était donc à Lille, à Fourvière, et qui disait « Le thomisme, c'est du néo-gothique ». C'est très significatif. C'est vrai que le thomiste n'est pas Dieu, puisque c'est vivre de l'esprit de Thomas d'Aquin. Comme on disait, et comme disent les meilleurs thomistes, « Secundum mantem divi Thomas ». Le thomiste est selon l'esprit de Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'on entre à fond dans Thomas d'Aquin et on comprend que Thomas d'Aquin nous donne une théologie scientifique très rigoureuse, très forte. Il nous forme. Mais ne sortons surtout pas la théologie de saint Thomas en la répétant. C'est ça, le mauvais thomisme. Et en disant que Thomas d'Aquin est un philosophe, non, il est un théologien. Et Dieu lui a demandé d'être un théologien et de se servir de la philosophie d'Aristote. Donc, secundum mantem divi Thomae. C'est-à-dire découvrir, divi Thomae, ça veut dire le vénérable Thomas. Entrer dans l'esprit de Thomas d'Aquin, c'est entrer dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Et ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est une théologie scientifique. Dans la grande tradition des théologiens de la doctrina sacra, dans la grande tradition de la doctrina sacra des pères de l'Église, saint Thomas fait quelque chose de très particulier. Il fait une théologie scientifique. Et la théologie scientifique n'égale pas la doctrina sacra. Elle est dans la doctrina sacra un point très précis, très particulier, qui jusque-là n'avait pas été fait. Et saint Thomas écrit la somme théologique pour les commençants, pour les débutants, donc pour vous, pour nous. En théologie, on est toujours un débutant, toujours. Alors, ce que Thomas d'Aquin a fait, l'Église considère que ça reste ce qui, dans l'Église, est le plus proche du mystère révélé. Mais l'Église reconnaît que la théologie doit se rénover. Quand on travaille Thomas d'Aquin, on fait le conservare, et à l'intérieur de ce conservare, on fait le rénovare. Ce qui a été terrible, c'est la scolastique décadente qui très vite a systématisé Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin. On a ramené cette théologie scientifique à un système. Le système thomiste. Dire le système thomiste, c'est la négation de Thomas d'Aquin. Puisque Thomas d'Aquin reconnaît lui-même que le propre de la connaissance philosophique est d'être analogique, c'est-à-dire de monter toujours et d'aboutir à la contemplation. La contemplation n'est pas un système. Vous êtes farouche là-dessus. Parce que considérer que la somme théologique est un système, c'est ne rien comprendre à Thomas d'Aquin. Alors, peut-être que jusque maintenant, vous avez dit que la somme théologique est un système et que c'est la philosophie. Vous verrez que c'est faux, petit à petit. Que c'est pas ça du tout. Saint Thomas sait très bien distinguer la philosophie de la théologie. Et c'est cela qui est très intéressant à voir. Dans la somme théologique, le début de la somme théologique, saint Thomas distingue les trois sagesses. La sagesse philosophique, la sagesse théologique, la sagesse mystique. Alors, historiquement, nous partons de la somme théologique, puisque la seule chose que saint Thomas a fait, c'est une sagesse théologique. C'est la seule chose qu'il a faite. Saint Thomas vivait en chrétienté. Donc, il écrit pour cette chrétienté. Pour la formation des futurs théologiens, pour les dominicains. C'est vrai. En premier lieu, il a écrit pour les dominicains, pour ses frères. Et comme il enseignait dans l'université, à travers les frères, c'était les autres. Comme nous. C'est là le conservare. Il y a les frères Saint-Jean, il y a les sœurs, il y a les amis. Et nous formons une famille. Et saint Thomas enseignait à l'université pour ceux qui cherchaient la vérité. Et il a été combattu. Puisque, ne l'oublions jamais, l'université de Paris, la Sorbonne, a condamné Thomas d'Aquin. Ce qui fait que Thomas d'Aquin n'a pas eu de vrai successeur. Thomas d'Aquin a été condamné par la Sorbonne parce que il a opté pour le païen Aristote, quittant la petite tradition dans laquelle était entré pleinement son maître Albert le Grand, une théologie qui se servait d'Avicenne. D'Avicenne latin, puisque Avicenne a écrit à la fois en arabe et en latin. Avicenne, c'est l'islam. Oui, c'est curieux, tout ça est tellement actuel. Mais il est un croyant. Il croit dans le Créateur. Tandis qu'Aristote est considéré comme le païen. C'est vrai qu'Aristote n'avait pas la foi, mais il cherchait à connaître la vérité. C'est curieux, hein. Thomas d'Aquin a considéré que celui qui cherche la vérité est plus proche du Christ que celui qui croit en un Dieu mais qui ne croit pas dans le Christ. Ça donne à réfléchir beaucoup pour notre monde d'aujourd'hui, pour l'œcuménisme. L'œcuménisme n'existera que si on cherche la vérité. Au-delà de dire « Ah, ils sont plus proches de nous. » Non, non. Ça, c'est quelque chose de trop subjectif. Thomas d'Aquin a eu cette audace. Et là, c'est vrai. C'est le Renovare. Le Renovare de Thomas d'Aquin, c'est de chercher Aristote comme philosophe à la place d'Avicenne. En gros, Avicenne fait une synthèse néoplatonicienne, aristotélicienne, dans le sens de Plotin, en baptisant, selon l'islam, cette recherche néoplatonicienne. Donc vous voyez, deux erreurs. Thomas d'Aquin a compris très vite, et ça c'est la grâce, parce que son maître, Albert le Grand, qui était aimé de tout le monde, c'est la différence. Albert le Grand a été aimé de tout le monde. Thomas d'Aquin n'a pas été aimé de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché la vérité à travers tout, et plus que tout, en docilité plénière avec l'Église. L'Église n'a jamais condamné Thomas d'Aquin. Mais la Sorbonne a voulu être plus catholique que Rome. Ça arrive, le gallicanisme. Hein, vous savez ce que c'est? Quand les évêques pensent être plus intelligents que le pape, les évêques de France, ou les évêques d'Allemagne, ou les évêques chinois, plus intelligent que Rome, oubliant que Rome a l'assistance directe de l'Esprit-Saint. C'est un cas extraordinaire à ce point de vue-là. Et c'est merveilleux de voir que Thomas d'Aquin a eu cette espèce d'audace et de force de chercher la vérité à travers tout. Peu importe d'avoir des ennemis, si on cherche la vérité. C'est la vérité qui nous libère. C'est pas nos amis. C'est la vérité qui nous libère. C'est la recherche impitoyable de la vérité. Et c'est ça qu'on doit avoir dans notre cœur à la suite de Thomas d'Aquin. C'est pour ça que Thomas d'Aquin est notre maître. On cherche à travers tout la vérité. Et dès qu'on est en face de la vérité, on entre à fond dedans. Mais avant, on critique. Thomas d'Aquin a eu cette sorte de génie de comprendre un moment où Avicenne régnait, qu'Avicenne abîmait un peu la vérité. Il y avait quelqu'un qui l'avait mieux découvert que lui, Aristote. Il a fait renaître Aristote. Et comme il ne connaissait pas suffisamment le grec pour lire Aristote directement, il a demandé qu'on traduise Aristote en latin. Il a travaillé sur le latin. De temps en temps, il montre le latin et le grec. Très peu, mais de temps en temps. Et c'est du reste intéressant de voir les traités où Thomas d'Aquin parle grec. C'est à l'égard de la personne. Ce qui montre que ça a été pour lui le problème numéro un. C'est un petit signe. Pour les autres choses, ça va. Mais là, il fallait lui revenir à la source. En voyant toutes les confusions qui pouvaient avoir lieu. Alors, Thomas d'Aquin est donc le maître de la théologie scientifique. comme nous sommes dans une époque où la théologie s'est développée d'une façon très anarchique, à tel point que certains disent il n'y a plus de théologie. Il y a des petits ruisseaux, il y a des recherches, mais il n'y a plus de théologie. C'est un peu vrai. Alors nous devons tenir compte du rénovare, avec les déviations du rénovare, et saisir ce qu'il peut y avoir de vrai dans ce rénovare. Le XXe siècle a donné naissance à une théologie de l'Église. Le XXe siècle a donné naissance à une théologie de l'œcuménisme, auquel le Saint-Père insiste beaucoup. Je ne peux pas le nier. Et Thomas d'Aquin, si je le comprends matériellement, semble anti-œcuménique. Pas du tout, il ne l'est pas du tout. Il cherche la vérité. Et ce n'est qu'en cherchant la vérité qu'on pourra avoir l'unité. Alors, il s'agit de bien comprendre Thomas d'Aquin dans son génie, celui qui cherche la vérité. Vous voyez, et là, nous retrouvons dans l'Écriture Thomas d'Aquin dans la lumière de Saint Jean, face à Pilate. Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Face à Pilate. J'ai toujours cherché dans Saint Jean où Jésus parlait en tant que philosophe. Quand il parle à Pilate. C'est-à-dire, il parle là à un homme cultivé. Qui a reçu une certaine culture philosophique, la culture stoïcienne, celle qu'on donnait à Rome de ce temps-là, Épictète, l'esclave devenu philosophe, Épictète. Épictète est un philosophe extrêmement intéressant. C'est le philosophe stoïcien de la liberté. Épictète parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Les distinctions que nous trouvons dans saint Paul. Et quand Jésus parle à Pilate, il parle en philosophe. Je suis venu chercher la vérité. Il ne dit pas à Pilate, la vérité c'est moi. Non. Il veut que Pilate cherche la vérité. Et Pilate était devant une question qui le dépassait complètement. Qu'est-ce qu'il faut penser de Jésus? Faut-il entrer dans la perspective des grands prêtres? Faut-il écouter Jésus? Et quand Pilate écoute Jésus, il dit, cet homme est innocent. Et Jésus pose la question, plus exactement, Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Vous voyez, et le monde d'aujourd'hui ne cesse de poser la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors on dit, Jésus n'a pas répondu. Il y a eu un grand silence. Et ça c'est beau. S'il y a ce grand silence, cherchez. Et c'est ce que l'Église nous demande. Cherchons. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que tout le problème philosophique est là. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça a été le grand problème d'Heidegger. Tout près de nous. Ça a été le grand problème d'Aristote. Et là, ils se tiennent. Et c'était le grand problème des stoïciens. Qu'est-ce que c'est que la vérité pratique? Et le pape nous dit, dans l'encyclique Splendor Veritatis, nous sommes en présence d'une crise de la vérité. Si on est en présence d'une crise de la vérité, il faut que nous soyons attentifs à cette recherche de la vérité. Parce que c'est le plus grand mal actuel, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est que la vérité. Et je comprends pourquoi Dieu a suscité la congrégation Saint-Jean pour répondre à cette vérité, à cette question, qu'est-ce que c'est que la vérité, au moment de la crise. C'est toujours comme ça. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'obscurité et nous fait comprendre après coup. Mais il fallait d'abord adhérer dans le silence et dans l'obscurité, puis après on comprend. Nietzsche dit, et Nietzsche fait partie hein, de ces idéologies athées, même si Nietzsche n'est pas entièrement athée, on peut discuter ça. Sa philosophie, elle, est dans une orientation d'idéologie athée. Nietzsche dit qu'il y a deux choses qui, pour lui, sont inadmissibles, qu'il ne peut pas supporter, la métaphysique et la compassion. J'avais lu ça, comme on lit Nietzsche, sans m'attarder. Et quand Dieu a suscité la congrégation Saint-Jean, en relisant ce passage de Nietzsche, j'ai dit que c'est extraordinaire. Les deux points sur lesquels, de fait, la Providence veut que nous soyons particulièrement attentifs, la métaphysique, le pape l'a demandé, la compassion. Marie au pied de la croix. Le Marie reflet divin de la sagesse de la croix. Alors comprenons que pour être fidèle à Thomas d'Aquin aujourd'hui, fin du XXe siècle, après la grande montée de ces idéologies athées, c'est cette grande montée depuis 150 ans, qui est pour le croyant, le Saint-Père n'a pas hésité de le dire, ces idéologies athées sont pour nous les antéchrists. Ces antéchrists que Saint-Jean annonce, il dit ils sont sortis de chez nous. Ces idéologies athées sont sorties de l'Europe chrétienne et de la philosophie européenne. Ce sont, je crois, les sept grandes formes d'antéchrist qui prennent l'homme dans toutes ses dimensions. Nous sommes donc en face d'un monde qui est influencé par ces sept formes d'idéologie athée. Et nous devons leur donner à ce monde, donner un témoignage. Je suis venu pour être témoin de la vérité de Jésus. Toutes les erreurs théologiques d'aujourd'hui proviennent des erreurs philosophiques. donc, nous voulons ne pas être séduits par ces théologies modernes. Il faut que nous comprenions que ces théologies se servent de philosophies erronées, de philosophies empoisonnées, et que le poison philosophique a gagné la théologie. C'est, je crois, l'exigence propre que Vatican II réclame de nous. L'ouverture au monde. Je ne peux plus vivre comme au Moyen-Âge, dans une église qui soit mon unique horizon. Au Moyen-Âge, tout ce qu'il y avait d'intelligent était chrétien. Toute la culture était chrétienne. L'art était chrétien. Aujourd'hui, la culture s'est laïcisée. Il n'y a plus de place pour le Sauveur dans la culture actuelle. Le Saint-Père l'a déclaré à tous les évêques français la première fois qu'il est venu en France, à Notre-Dame. Et nous devons tenir compte de ça. Il n'y a plus de place pour le Sauveur dans la culture moderne, fruit de ces idéologies athées. Si donc nous devons nous ouvrir à ce monde, nous devons avoir non pas des idéologies semblables aux idéologies athées. On est battu d'avance. Quand on prend les armes de l'ennemi, on est battu d'avance. Parce que l'ennemi a commencé avant nous. Donc, il a du terrain gagné avant nous. Nous devons revenir à la recherche de la vérité pour elle-même. Pour montrer que cette culture athée, que cette culture purement laïque, mutile l'homme dans ce qu'il a de plus français, dans ce qu'il a de plus radical. Que ces idéologies athées conduisent au désespoir, au suicide collectif de l'humanité. C'est le seul désir du démon, de Lucifer. Et on est dedans. Et nous devons, par le fait même, avoir une connaissance de l'homme plus profonde que toutes ces idéologies athées, pour pouvoir répondre à ces idéologies athées. D'où la nécessité pour nous de revenir à une philosophie saine, une philosophie de l'homme, et découvrir par cette philosophie ce qu'est la personne humaine dans toutes ses dimensions. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. Pour purifier notre regard sur l'homme et pour pouvoir témoigner que cette culture laïque, telle qu'elle est vécue en France, mutile l'homme dans ce qu'il a de plus foncier. Pour cela, il faut nécessairement découvrir, au-delà de toutes ces idéologies athées, quelque chose de radical qui nous permet de comprendre ce qu'est l'homme. Et ce regard philosophique est nécessaire. Sagesse philosophique. Et en faisant ça, on est fidèle à Thomas d'Aquin. Je suis sûr que si Thomas d'Aquin revenait, il peut venir nous éclairer dans nos songes et durant les nuits. Il peut venir nous éclairer quand on l'étudie avec amour. Attention, fais attention à ça. J'ai dit que la philosophie était une sagesse. Et on n'en a pas tenu compte du tout. Dans ce qu'on appelle la scolastique décadente, on a cru qu'il suffisait de comprendre ma théologie. Je ne peux pas comprendre la théologie de Thomas d'Aquin si je n'ai pas compris ce qu'est la philosophie réaliste. Ce n'est pas la foi qui engendre en moi une philosophie. La foi n'est pas faite pour cela. C'est du messianisme temporel que de croire que la foi qui est faite pour m'orienter vers la vision béatifique, la foi va engendrer en moi une nouvelle philosophie. Pas du tout. Il y a des croyants qui ne sont pas très intelligents, grâce à Dieu, pour me montrer que la foi ne donne pas l'intelligence humaine. Et la foi me donne un regard divin, un œil divin. Mais Dieu me demande d'être intelligent pour purifier mon intelligence, pour recevoir une foi dans toute sa pureté. Dieu me demande d'être intelligent pour répondre à tous ceux qui refusent la foi au nom de l'intelligence humaine. Je dois donc faire cet effort de redécouvrir l'ordre génétique d'une philosophie réaliste et ne pas me contenter de répéter Thomas d'Aquin. Répéter Thomas d'Aquin, ce n'est pas être un disciple de Thomas d'Aquin. Perroquet Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin veut que ses disciples soient intelligents. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Quand il parle de Saint Jean, perspicacité de l'intelligence. Un maître aime mieux toujours des disciples intelligents que des disciples pas très intelligents qui répètent comme des perroquets. Ce qui est terrible de répéter Thomas d'Aquin, c'est qu'on le répète toujours de travers, parce que Thomas d'Aquin n'est pas fait pour être répété. Si Thomas d'Aquin donnait un système, on n'aurait qu'une seule chose à faire, c'est de répéter ce système. Relire toujours l'encyclopédie de Hegel. Cette répétition. Alors que Thomas d'Aquin est fait pour éveiller en nous notre intelligence et faire de nous des personnes autonomes dans la recherche de la vérité. Et pour la recherche de la vérité. Voyez, ne soyons pas ceux qui contribuent à rejeter Thomas d'Aquin. Soyons ceux, au contraire, qui aiment Thomas d'Aquin et qui veulent montrer que Thomas d'Aquin est très intelligent parce qu'il sait distinguer philosophie et théologie et que c'est une distinction capitale après l'ère hegélienne et dans l'ère hegélienne. C'est la distinction fondamentale qu'on doit sauver. Une sagesse philosophique, une sagesse théologique. Puis en dernier lieu,